L'autre François
oui.
est là, il s'appelle François Angelier et il veut parler d'un jeune auteur, Verne. Qui est ce Jules Verne?
Alors, place aux jeunes, place à la guerre de mon temps en littérature, place à Jules Verne. On n'est pas loin de l'Amérique, de la technologie et de toute...
Ouais, c'est très techno,
Toutes ces puissances. Y a-t-il aujourd'hui un classique littéraire au statut plus évident, mais en réalité plus ambigu et plus disputé que Jules Verne? Si sa gloire et les images qu'il apporte nous parle d'une figure qui tangue entre l'inspection d'académie, la science amusante et les gentlemen baroudeurs, humanistes scientifiques, notables en pleine épopée involontaire ou dilettantes risquent tout, la lecture en leur version intégrale de ses romans et nouvelles, pour ne rien dire de ses pièces de théâtre, voire de ses poèmes, nous raconte une bien autre histoire, moins en accord avec la vision idéologique de son éditeur Pierre-Jules Hetzel, plus surprenante. Celle d'un concepteur de machines infernales littéraires, de cryptogrammes narratifs qui fascinèrent tant Raymond Roussel que Michel Butor, celle d'un monarchiste breton catholique et apocalyptique fasciné quasi érotiquement par le machinisme mais poussant ses monstres technologiques au ravin et à la casse, celle d'un écologiste convaincu, s'insurgeant par la plume contre le massacre des baleines, l'épuisement des richesses terrestres et l'ingénierie démente de certains savants. Bilan, il y aurait deux Jules Verne, le monument éditorial conçu, mené et tenu en main par Hetzel, et un autre Verne, plus secret, fils d'un temps qu'il réprouve et concepteur de fiction littéraire qu'on ne comprend qu'à la relecture. L'œil lavé de la propagande et du marketing. Il est passionnant sur ce point de lire le cinquième volume que la Pléiade consacre à l'auteur de Voyage au centre de la Terre, volume dirigé par Jean-Luc Steinmetz et consacré au thème de la Robinsonnade et donc à celui de Lille. Verne, enfant nantais qui fit de la Loire et de ses bords un terrain de jeu, découvrit dans le même élan la lecture et la navigation fluviale, le roman d'aventure et ce qu'il en coûte d'embarquer à bord d'un canot à l'étanchéité incertaine. On y découvre dans ce volume d'abord des titres méconnus datant des années 1880-1900 comme L'école des Robinsons, Deux ans de vacances ou Seconde patrie. On y lit un Verne marqué moins par le Robinson de Daniel Defoe que par ce best-seller prévernien que fut le Robinson suisse du pasteur Wyss. L'école des Robinsons, avant tout, amène à découvrir un Verne qui porte à son comble la vision du monde, conçue telle une gigantesque machinerie théâtrale aux appareils coordonnés. On y suit en effet les aventures du jeune et oisif américain Godfrey et de son professeur de maintien, le sémillant T. Artelette, entendez Tartelette, qui, ayant fait naufrage sur une île en forme d'île, doit affronter des sauvages conformes à la tradition, s'initier à la chasse, oser la pêche et finir par rencontrer en lieu et place de vendredi, le singulier Carré Finotu. Un lot d'aventures totalement factices, conçu et réglé comme un spectacle de music-hall par l'oncle milliardaire de Godfrey, Kolderup, qui souhaite par ce biais le viriliser et l'initier aux rigueurs de la vie. Si Seconde Patrie offre une revisitation du Robinson suisse, Deux ans de vacances anticipe sur Sa Majesté des Mouches de William Golding avec le récit de deux groupes de jeunes naufragés s'affrontant puis pactisant face à une menace commune. Chez Verne, tout est île, tout fait île, de la nacelle du ballon aux terres émergées, et qu'on habite New York ou Amiens, nous sommes tous des naufragés solitaires. C'est sans doute la leçon ultime et pessimiste du singulier robinsonneur et humaniste anxieux nommé Jules Verne.
Merci François Angelier.